Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du jeudi 14 juin 2018 en direct de Washington. Idrissa Sedoudia pour commencer les titres. Début de la Coupe du Monde 2018 aujourd'hui en Russie. En République démocratique du Congo, 82 personnes tuées et 76 autres enlevées au courant du mois de mai dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. En Guinée équatoriale, les deux principaux partis d'opposition posent des conditions à leur participation au dialogue politique convoqué par le pouvoir en place. Les États-Unis espèrent voir un désarmement majeur de la part de la Corée du Nord dans 2 ans et demi. Tout de suite, le journal de la Coupe du Monde avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Nous y sommes donc, la 21e édition de la Coupe du Monde commence aujourd'hui en Russie.
La succession de l'Allemagne vainqueur de Brésil 2014 est ouverte et l'heureux gagnant sera connu le 15 juillet à l'issue de la finale. Le match d'ouverture opposera tout à l'heure le pays hôte, la Russie, à l'Arabie Saoudite. Au total, 32 équipes sont en lice, dont 5 africaines, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Nigeria et le Sénégal. Les Lions de la Teranga sont logés dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Après 3 matchs nuls contre l'Ouzbékistan 1-1, la Bosnie 0-0 et le Luxembourg 0-0 également. Le Sénégal a perdu face à la Croatie 1-2 avant de remporter son dernier match de préparation 2-0 devant la Corée du Sud, sa seule victoire dans ses matchs amicaux. Pas de quoi entamer le moral du sélectionneur qui se dit confiant. Aliou Cissé.
Nous venons ici avec vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté pour représenter notre pays. Essayer de faire le maximum pour nous. Je crois que pour un footballeur professionnel, ce qui est important, c'est de jouer une Coupe du Monde. Pour un entraîneur, la chose la plus importante, c'est coacher une équipe qui joue une Coupe du Monde. Donc c'est une fierté pour nous. Nous allons rencontrer 31 équipes, grandes équipes. Le Sénégal aussi fait partie de ces grandes équipes. On a des arguments à faire valoir.
Aliou Cissé s'est exprimé au micro d'Amdine Nassi sur place à Kaluga, au QG des Lions de la Teranga. Bien avant le Sénégal qui ouvre son bal face à la Pologne le 19 juin, deux formations africaines, le Maroc et l'Égypte, entreront en lice dès demain vendredi, respectivement contre l'Iran et l'Uruguay. Les Lions de l'Atlas sont logés dans le groupe B avec l'Espagne, le Portugal et l'Iran. La plus grosse performance du Maroc au Mondial, on le rappelle, remonte à 1986 où il a été 8e de finaliste. Malgré la présence des monstres espagnols et portugais dans leur groupe, les Marocains se disent prêts. Écoutons leur capitaine, Mehdi Benarsia.
Pour nous, ce n'était pas des matchs amicaux, c'était plus des matchs de préparation à cette Coupe du Monde. Donc voilà, il fallait montrer qu'on était en train de travailler correctement. Un stage qui, pour l'instant, se passe très bien. Beaucoup de travail, les résultats ont été positifs aussi dans l'ensemble. Donc, comme je dis, voilà, il y a plein de bonnes choses à retenir, des choses encore à améliorer, mais je pense qu'on peut aller en Russie en étant confiant et en sachant qu'on est capable de faire quelque chose.
Mehdi Benarsia, capitaine des Lions de l'Atlas.
Toujours en Russie, l'Espagne, adversaire du Maroc, a changé de sélectionneur à 2 jours de son premier match contre le Portugal.
Et oui, le directeur sportif de la Rora, Fernando Hierro, a été nommé à la tête de la sélection espagnole en remplacement de Rulén Lopetegui qui a signé mardi au Real Madrid après la démission de Zinedine Zidane. Éliminée en phase de poule en 2014 alors qu'elle était tenante du titre, l'Espagne aborde revanchard le Mondial 2018.
En marge de cette Coupe du Monde, l'Assemblée Générale de la FIFA a retenu la candidature États-Unis-Canada-Mexique pour accueillir le Mondial 2026.
Le trio nord-américain a été désigné par les fédérations membres de la FIFA avec 134 voix contre 65 pour le Maroc. Les États-Unis, le Canada et le Mexique vont donc accueillir la première Coupe du Monde à 48 équipes. Pour le Maroc, il s'agit de son 5e échec après les revers de 1994, 1998, 2006 et 2010. Le président de la CAF qui a porté cette candidature marocaine, qui l'a d'ailleurs qualifiée de candidature africaine, n'exclut pas l'immixtion du politique dans cet échec. Ahmad Ahmad.
Je ne peux faire autrement, on a fait ce qu'on peut faire. Apparemment, c'est 45 pays en Afrique qui ont voté. Je pense que c'est honorable. Ce que j'avais toujours dit, avoir 100% actuellement, c'est très difficile. Puis, vu les fortes pressions politiques en Afrique de certains chefs d'État, c'était pas évident.
Ahmad Ahmad, président de la CAF. Certains pays africains à l'image de l'Afrique du Sud et du du Libéria ont voté pour les États-Unis, une désunion déplorable d'après l'un des parrains de la candidature marocaine, l'ancien international camerounais Joseph Antoine Bell.
Les Africains au moins auraient dû saisir l'occasion pour dire voilà ce que l'Afrique peut offrir, cette émancipation africaine que nous revendiquons. C'était le jour de le montrer. Et là, on a échoué. Et les Africains ont voté pour rajouter une Coupe du Monde aux autres et non pas pour l'organiser nous-mêmes. Il vaut mieux tomber les armes à la main et j'aurais préféré que l'Afrique n'ait que 54 voix, mais 54 voix africaines. Ça aurait été significatif.
Joseph Antoine Bell, l'un des parrains de la candidature marocaine. Idrissa, c'est ici qu'on s'arrête aujourd'hui pour ce qui est du journal du Mondial.
Merci Yacouba Ouédraogo.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Maintenant avec Anne Albertson, voyons le reste de l'actualité.
En République démocratique du Congo, 82 personnes ont été tuées et 76 autres enlevées ou kidnappées au courant du mois de mai dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu dans l'Est. Des détails avec Magasikoura.
82 morts violentes, 76 enlèvements et 35 affrontements ont été enregistrés en mai dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, selon un rapport sur la sécurité par l'ONG Human Rights Watch et le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Ce document établit la cartographie des pires violences dans ces deux provinces. Le 20 mai, des hommes armés non identifiés ont abattu 10 civils dans le village de Mangboko sur la route entre Beni et Ouacha, dans le nord du Nord Kivu. Ce rapport note que malgré le déploiement massif des forces de sécurité dans la région de Beni, il a été enregistré une augmentation des abus contre les civils. En mai, 8 civils ont été tués sur le seul territoire de Beni par des militaires congolais. 4 autres ont été grièvement blessés. Les provinces du Nord et du Sud Kivu subissent les violences meurtrières de groupes armés nationaux et étrangers depuis plus de 20 ans.
Une polémique autour de la disparition fin mai de plusieurs collégiens à Libreville enfle au Gabon, où la famille de l'un d'entre eux, Darlin Stessy, a affirmé mercredi à l'AFP avoir porté plainte pour avoir plus d'informations. Officiellement, Stessy et 3 autres collégiens de Libreville âgés de 12 à 15 ans sont morts par noyade fin mai. Mais à Libreville, les parents de 2 de ces collégiens ont affirmé que des traces de coups étaient visibles sur les corps, suscitant des interrogations et la polémique sur les réseaux sociaux. D'aucuns n'ont pas hésité à parler de crimes rituels en relation avec des consultations électorales.
La Française Sophie Petronin, enlevée au Mali fin 2016 par des hommes armés à Gao, est apparue dans une nouvelle vidéo diffusée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, selon Site, un centre américain spécialisé dans la surveillance en ligne de la mouvance djihadiste. Dans cette vidéo, Sophie Petronin, âgée de 75 ans, s'adresse à son fils Sébastien, ensuite au gouvernement français, puis au président Emmanuel Macron, en indiquant que la date de l'enregistrement de cette vidéo est le 7 juin 2018. Petronin dirigeait au Mali une association d'aide aux orphelins.
Dans l'extrême nord du Cameroun, une campagne de vaccination d'un million de têtes de bétail a été lancée hier. Le secteur de l'élevage est pleinement touché par les attaques de Boko Haram. Le point avec Lionel Gahima.
À cause des attaques de Boko Haram, les opérations de vaccination du bétail ont été suspendues et cette campagne contre la peste est une première depuis 2 ans. Selon Marcus Bruderman, chef du CICR pour l'Afrique centrale, l'opération va durer 1 mois, se traduira par la vaccination et le déparasitage d'un million de têtes de chèvres et moutons. 12 000 ménages vivant de l'élevage pourront ainsi préserver leurs moyens de subsistance. D'après une enquête du ministère camerounais de l'élevage, les pertes sont estimées à près de 55 milliards de francs CFA en mai 2016 et quelques 8,5 milliards de francs pour la pêche. L'étude précise que depuis 2012, Boko Haram a volé ou tué plus de 29 000 bovins, 19 000 petits ruminants. Aussi, les attaques de djihadistes ont provoqué la fermeture de 21 marchés à bétail.
En Guinée équatoriale, les 2 principaux partis politiques d'opposition posent des conditions à leur participation au dialogue politique convoqué récemment par le pouvoir en place. Le point avec Raissa Girondin.
La libération des prisonniers politiques, la participation de la société civile et la présence de la communauté internationale sont les 3 conditions posées par le parti dit « citoyen pour l'innovation et la convergence pour la démocratie sociale » pour participer au dialogue politique. Le Parti citoyen pour l'innovation, principale force de l'opposition, a été dissous fin février suite à la condamnation de ses 21 militants à plus de 30 ans de prison. Lundi, le président Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 38 ans, a annoncé la convocation d'un dialogue politique du 16 au 21 juillet. L'objectif annoncé, c'est d'inciter tous les Équato-Guinéens dispersés dans la diaspora pour des raisons politiques à rentrer au pays et de légaliser certains partis d'opposition, comme cela a été le cas lors du dernier dialogue en 2014.
Les États-Unis ont demandé au Kenya de mieux lutter contre les investissements sud-soudanais. L'élite militaire et le gouvernement du Soudan du Sud sont accusés d'avoir profité de la guerre civile pour s'enrichir. Le point avec Marie Benson.
Selon les États-Unis, l'élite sud-soudanaise a profité de la guerre civile pour investir de l'argent blanchi dans le secteur immobilier kényan en toute impunité. Le Trésor américain a déclaré qu'il y aura de lourdes conséquences financières pour quiconque profiterait des violations des droits de l'homme et de la corruption pour s'enrichir illégalement. La fondation américaine The Century a accusé l'élite politico-militaire sud-soudanaise de s'être enrichie en luttant pour s'approprier les ressources naturelles du pays, notamment le pétrole. Madame Mandelker, représentante du gouvernement américain en déplacement au Kenya, a conseillé aux autorités de Nairobi d'interdire l'entrée du territoire aux personnalités sud-soudanaises qui sont placées sur une liste noire.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis espèrent voir un désarmement majeur de la part de la Corée du Nord dans 2 ans et demi, a déclaré hier le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, 24 heures après que le président Donald Trump a signé à Singapour avec Kim Jong-un, le leader nord-coréen, un accord appelant à la fin du programme nucléaire de Pyongyang. Après un briefing aux responsables sud-coréens à Séoul, M. Pompeo a précisé qu'il veut de toute évidence une dénucléarisation vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne d'ici à la fin du premier mandat du président Trump en 2021.
Les pourparlers avec la Corée du Nord vont se poursuivre à ce sujet la semaine prochaine, a encore dit le chef de la diplomatie américaine. Selon M. Pompeo, le document signé mardi ne dit pas tout ce qui a été convenu entre M. Trump et Kim Jong-un. C'était une réponse apparente aux détracteurs du président américain qui souligne le manque de détails dans ce document et reproche à M. Trump d'avoir fait trop de concessions aux leaders nord-coréens.
L'Assemblée générale des Nations unies a adopté hier un projet de résolution auquel les États-Unis étaient opposés, condamnant Israël pour la récente flambée de violences meurtrières à Gaza, tout en rejetant un amendement américain mettant en cause le Hamas dans ces mêmes violences. Le projet de résolution, soutenu par les pays arabes, a été adopté par 120 voix sur 193, avec 8 votes contre et 45 abstentions. La France fait partie des 12 pays européens qui ont donné leur voix à ce texte, rejoint notamment par la Russie et l'Espagne.
Les forces pro-gouvernementales au Yémen, appuyées par les Émiratis et les Saoudiens, ont lancé hier une offensive sur le port stratégique de Hodeïda, contrôlé par les rebelles houthis, malgré les appels à la retenue et les craintes pour la population. Le Royaume-Uni a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité qui doit se tenir aujourd'hui à huis clos, après une mise en garde de l'ONU contre cette offensive qui pourrait interrompre l'approvisionnement de millions de personnes dans ce pays pauvre, dont une partie est au bord de la famine.
L'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh, récompensée à l'étranger pour son engagement dans la défense des droits de l'homme, a été arrêtée hier, a annoncé son mari sur Facebook. L'avocate, âgée de 55 ans, a récemment défendu plusieurs femmes arrêtées pour avoir enlevé leur voile en public afin de protester contre son port obligatoire depuis la révolution islamique de 1979. Dans un communiqué, Amnesty International a dénoncé la détention de Madame Sotoudeh.
Le Nicaragua s'apprête à vivre une journée de paralysie totale aujourd'hui, l'opposition ayant décrété une grève générale pour protester contre la violente répression des manifestations contre le président du Nicaragua, Daniel Ortega, répression qui a fait plus de 150 morts en moins de 2 mois. Tout en soutenant cette expression de protestation pacifique, l'influente Église catholique qui s'est posée en médiatrice du conflit a prié le gouvernement et l'opposition de renouer le dialogue. Les manifestants réclament notamment l'organisation anticipée de l'élection présidentielle prévue en 2021 et des réformes constitutionnelles.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau, Idrissa Sédoudia avec vous. Nous allons procéder maintenant, à notre partie consacrée au magazine. Et attendez que je m'y retrouve dans mes papiers ici. Alors, comme je dirais, au Congo-Brazzaville, nous commençons par le Congo-Brazzaville, le gouvernement a annoncé la reconnaissance de 55 partis politiques sur les quelques 200 qui existent dans le pays. Parmi les formations appelées à disparaître au terme de cette nouvelle loi, plusieurs appartiennent à des figures de proue de l'opposition. Alors de Brazzaville, des détails avec notre correspondant Arsène Séverin.
C'est dans une salle comble de responsables des partis de l'opposition que le ministre de l'Intérieur, Raymond Ephraim Boulou, annonce l'application de la loi de 2017 interdisant toute formation politique n'ayant pas de représentation sur l'ensemble du pays.
À la date d'aujourd'hui, nous en reconnaissons 49. Le processus ne s'arrête pas tant que les gens veulent créer leur parti, mais il faut se conformer à la loi de 2017.
De leur côté, les partis de l'opposition se sentent visés par cette mesure. Clément Mirassa, dont le parti a boycotté les dernières consultation électorale, manifeste son mécontentement.
Mais j'espère que le gouvernement, à travers son ministre de l'Intérieur, a été à l'écoute de ce qui lui a été dit. L'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Et les choses sont claires. Ça veut dire en fait qu'il y avait un plan caché en espérant faire disparaître un certain nombre de partis. Bon, dans tous les cas, nous l'avons bien signifié. Nous ne sommes pas concernés par cette loi. Dans tous les cas, moi, ça ne me surprend pas.
Pour Éric Mampouya de la Fédération de l'opposition congolaise, cette nouvelle disposition rétrécit l'espace de la démocratie au Congo.
Nous pensons que le Congo est occupé par un régime qui se maintient par la force. Nous, en tant que parti ou bien mouvement, nous n'allons plus exister. D'accord, mais nous avons connu dans ce pays-là, dans l'époque du marxisme, les églises étaient interdites, les partis étaient interdits, et ça n'empêchait pas les Ngunza de fonctionner ou les maturanistes de se réunir. Et quand nous sommes frappés d'interdiction, c'est simple, nous allons rentrer dans la clandestinité. On ne peut pas nous empêcher de penser, de rêver à un autre Congo.
Reconnaissant la rigueur de la loi, le président du Parti des Républicains, Paul-Marie Pouellet, lui aussi un opposant, estime qu'il faut se régulariser pour continuer d'exister.
Nous allons régulariser notre situation et voilà, on va continuer à vivre parce que nous avons différence à promouvoir et nous devons nous battre pour que cette différence puisse triompher.
La société civile analyse avec beaucoup de circonspection cette nouvelle loi sur les partis politiques. Roch Eloge Nzobo est le responsable du SEC pour les droits de l'homme et le développement. Il dénonce un vice juridique.
En réalité, ce ne serait pas au ministre de l'Intérieur de faire cette déclaration. Il y a une loi qui existe et la justice devait être saisie pour justement statuer sur la légalité ou l'illégalité des partis politiques. Mais pourquoi est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur qui vient l'annoncer? Parce qu'ici, il ne faut pas prendre justement des mesures arbitraires pour légaliser certains partis satellites.
Finalement, l'administration du territoire a reconnu 55 partis selon une liste signée le 12 juin et dont copie est parvenue à VOA Afrique. Même sur cette nouvelle liste, pas de formation des opposants de proue comme Claudine Mounari, Mathias Nzon, Blachan Robin ou Christophe Moukweke. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
La Cour pénale internationale, la CPI, a annoncé le lancement d'un programme d'assistance d'1 million d'euros pour les victimes centrafricaines des miliciens de Jean-Pierre Bemba, l'ancien chef rebelle et vice-président qui a quitté la CPI après son acquittement. Eddy Isango a joint à Paris la responsable adjointe de la justice internationale de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, Belfine Carlens.
Nous accueillons plutôt positivement cette décision du fonds d'accélérer ce programme d'assistance à ces victimes qui ont tout perdu dans les attaques de 2002 et 2003 et qui ont subi de graves souffrances physiques et psychologiques et qui sont encore aujourd'hui stigmatisées et rejetées par leur communauté.
$1 million pour les victimes, sont-ils assez pour autant de personnes?
On parle de milliers de victimes, non seulement des troupes du MLC, mais de tous les partis au conflit qui a fait rage en RCA en 2002 et 2003. Ça sera effectivement, un programme d'assistance qui aura pour but de donner une sorte de forme de réhabilitation physique et psychologique. Et donc, ça peut prendre différentes formes. Ça ne sera pas une indemnisation individuelle pour chaque victime, mais plutôt probablement des programmes de soutien médical, de soutien psychologique, peut-être des programmes de sensibilisation à l'égard des communautés, de manière à justement atténuer la stigmatisation qui résulte, notamment des violences sexuelles qui ont été subies en grand nombre. Probablement, ça ne sera pas une indemnisation individuelle pour chacune des victimes, mais plutôt une assistance globale qui pourra bénéficier à un grand nombre de victimes. Mais nous attendons encore effectivement les précisions sur les types de projets qui seront mis en œuvre.
On a enregistré dans d'autres procès des revendications après que les victimes aient été indemnisées. Est-ce qu'on ne craint pas que ça puisse être le cas pour ces procès-ci?
Nous espérons en tout cas que les programmes mis en place seront définis en prenant en compte toutes les demandes et les préoccupations et les demandes des victimes afin qu'elles répondent au mieux à leurs besoins et à leurs préoccupations et de manière à ne pas créer effectivement de trop grosses déceptions. Il faut évidemment reconnaître qu'elles attendent depuis plus de 15 ans des formes de réhabilitation et de soutien qu'elles n'ont pas. Le défi est grand pour essayer de répondre au mieux aux besoins.
Vous dites que l'acquittement puis la libération provisoire de M. Jean-Pierre Bemba était un choc. En quoi le maintien de celui-ci en détention aurait soulagé les victimes?
C'est surtout le verdict, l'acquittement en lui-même qui est un choc. Nous avons ces derniers jours exprimé notre étonnement par rapport à l'interprétation des trois juges de la majorité de la Chambre d'appel, l'interprétation du statut de la CPI et notamment l'interprétation assez restrictive de la responsabilité du supérieur hiérarchique et du chef militaire.
Bemba libéré, certains craignent pour lui par rapport à la situation qui prévaut en RDC. Qu'en dites-vous?
Il me semble que sa sécurité et sa protection est peut-être moins en jeu en Belgique. On reste particulièrement vigilant par contre par rapport à la sécurité et la protection de tous les défenseurs des droits humains qui ont pu documenter tous les crimes commis par les troupes du MLC.
C'était Delphine Carlens, responsable adjointe de la justice internationale de la FIDH à Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Haute-Guinée, affrontements récurrents entre populations locales, le plus souvent l'accès à la terre est l'une des causes pour la recherche de l'or ou la culture de cajou. Pour faire le point, Idriss Fall a joint Amadou Thiam, journaliste à Kankan dans le nord de la Guinée.
L'orpaillage artisanal est très développé. C'est quelque chose qui n'est pas interdit par l'État et les populations profitent pour se faire un peu d'argent. Les sous-préfectures, des districts s'affrontent des fois pour dire bon, telle partie appartient à mon district, telle autre partie appartient à ma sous-préfecture, etc., etc. Des conflits comme ça très récurrents. Prenez par exemple la sous-préfecture de Tchimbakoura où il y a eu des affrontement entre un secteur et un district, le district de Kokou et le secteur de Sananfra. Le secteur de Sananfra et le district de Kolé réclament la même zone d'exploitation. Il y a eu des blessés. Il y a plus d'une centaine de motopompes qui ont été brûlées. Et ce différend existe il y a de cela une dizaine d'années et la justice avait déjà tranché entre ces deux populations. La justice des fois tranche et les populations n'acceptent généralement pas de respecter les décisions de justice. C'est un autre cas très récent, c'est entre par exemple Fissakolé et Nyandankoua, où on parle encore d'affrontements qui ont fait état d'un mort et d'une vingtaine de blessés. Il y a de cela environ 72 heures que le ministre de l'administration du territoire, il y avait des problèmes, le ministre de l'administration du territoire avait fait un déplacement pour que ces populations-là se réconcilient afin vraiment qu'il y ait la paix et la quiétude sociale dans la région.
Mais en dehors de ça, il y a aussi des affrontements liés à la terre et à la culture.
culture de l'acajou.
Avec la politique agricole de l'État, il y a eu la relance de la culture de cajou. Il faut voir, le prix d'un kilo de cajou avant en Guinée était aux environs de 2 000, 3 000. Mais actuellement, il faut voir, depuis l'année dernière, on parle de 6 000, 7 000, 8 000, des fois voire même 10 000. Alors les gens, un peu partout, des terres qui n'étaient pas utilisées avant. Alors actuellement, les gens se sont orientés vers les cultures d'exportation. Et cela crée des problèmes entre les communautés. C'est les mêmes problèmes qui sévissent lorsqu'il s'agit aussi des terres que les gens réclament pour l'exploitation minière. C'est le même problème. Mais vous allez voir que ces problèmes-là sont souvent très reculants dans la région qu'on appelle en Guinée la Haute-Guinée, surtout. Surtout, c'est en Haute-Guinée où on entend beaucoup de problèmes de ce genre liés aux terres agricoles et liés pour l'exploitation minière.
C'était Amadou Thiam, journaliste à Cancan, dans le nord de la Guinée.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
L'Espagne a lancé les préparatifs pour accueillir l'Aquarius qui devrait accoster au port de Valence. Le gouvernement espagnol coordonne ses efforts pour recevoir et identifier les 630 migrants avec l'exécutif régional de Valence et la Croix-Rouge. Pour l'Organisation internationale des migrants, il faut que l'Europe revoie totalement sa politique de migration. Bagasikoura a joint à Genève Leonard Doyle, l'un des porte-parole de l'OIM.
Je pense que la situation est déjà beaucoup mieux pour les 630 qui sont à bord de ce navire. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui se passe avec les autres migrants qui arrivent derrière eux. Ça, c'est le problème.
Alors, vous avez notamment félicité l'Espagne pour ce geste, mais vous critiquez de façon générale la gestion européenne des migrants.
Oui, parce qu'il n'y a pas assez de support pour les nations sur la front line, si vous voulez, sur devant le continent de l'Afrique. Ils font tout le travail, ils aident beaucoup de migrants. Il y a les pays du nord de l'Europe sont un petit peu aveugles à ce problème.
Et comment est-ce que ces pays pourraient faire pour mieux accueillir les migrants?
Je pense que d'abord, il faut avoir une distribution des migrants. Il faut avoir un système légal plus efficace. Une grande partie du problème, c'est que ce n'est pas assez efficace. C'est le problème de base. Il y a des gens qui ne sont pas des réfugiés et qui sont dans le système légal pour des années et des années, et franchement, ils doivent retourner chez eux s'ils n'ont pas le droit d'être là.
L'OIM prône aussi à la révision du traité de Dublin. Qu'est-ce que c'est ce traité-là?
Le traité de Dublin, c'est l'idée que l'endroit où les migrants arrivent, c'est l'endroit où ils doivent être procédés. Et ça, finalement, ça donne des problèmes si tout le monde arrive dans les pays de la frontière, si vous voulez, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie, Malte, Cypre et la Grèce.
Et donc, du coup, ces pays sont débordés.
Exactement, ils sont débordés finalement.
Et alors que des pays comme la France, qui sont un peu plus à l'intérieur et qui ont plus de moyens, ne reçoivent pas autant de migrants.
Ils ne sont pas assez touchés, alors c'est pas assez proche à eux. Et ça doit être plus proche. Quoi.
Vu cette période qui commence, est-ce que vous attendez à plus de migrants dans les mois à venir?
Je pense que c'est absolument le cas que ça va se passer parce que finalement, c'est une question de la démographie. L'Afrique devient plus grande. Et effectivement, je pense que comme on a expliqué plusieurs fois, il faut que l'Europe soit très généreuse et très aimable à ses voisins parce qu'on va ajouter 1 billion de personnes bientôt. Alors peut-être que c'est une idée.
C'était Leonard Doyle, porte-parole de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, joint à Genève par Bagasikoura.
Raissa Girondin avec vous. Washington Forum revient sur le sommet inédit Donald Trump-Kim Jong-un. Le président des États-Unis et le dirigeant nord-coréen ont signé un document mentionnant une dénucléarisation de la péninsule coréenne en échange de garanties de sécurité. Que retenir de cette rencontre historique? Quelle est la valeur de l'accord signé? Que dit-il? Va-t-il changer la donne? Quelles peuvent être ses conséquences sur les relations internationales? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel.
Salut les amis, Roger Montou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.